Slate Podcast.
Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi ? Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent ? Je m'appelle Titiou Lecoq et vous écoutez « Rends l'argent ». Attention, cette fois dans « Rends l'argent », on passe au lourd, on entre dans le dur, on n'est plus là pour rigoler. Héloïse Boll, la gestionnaire de fortune que j'ai rencontrée, va nous parler des impôts. Les impôts, parce que figurez-vous que, oh surprise, un certain nombre de femmes se font arnaquer avec cette histoire.
Alors, les impôts, c'est un sujet qui a un peu créé quelques remous ces derniers mois parce qu'on est passé au prélèvement à la source. Et ouais. En septembre dernier, les couples, mariés ou pacsés, ont pu choisir entre un taux qui s'appelle un taux personnalisé, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un taux commun, et un taux individualisé, qui est un taux propre à chacun des époux ou des partenaires. Je m'explique. On a une situation dans laquelle l'homme gagne 2000 et la femme gagne 1000. Le taux commun, c'est le taux personnalisé, c'est à peu près 10%. C'est un cas complètement inventé. On prélève 10% sur les 2000 euros de l'homme et sur les 1000 euros de la femme. Si on opte pour le taux individualisé, la femme qui gagne 1000 euros ne va presque rien payer. Son taux individualisé, c'est par exemple 2%. Et l'homme, son taux individualisé, c'est, mettons, 12%. Et donc, finalement, celui qui gagne le plus a un taux de prélèvement qui est nettement plus élevé que celui qui gagne le moins. Donc, cette situation, elle est beaucoup plus équitable. Mais il y a quand même eu des couples dans lesquels certains se sont dit, bah oui, mais moi, je vais payer beaucoup plus, donc parmi ceux qui gagnent le plus dans le ouais. couple. Donc, puisque je paye beaucoup plus d'impôts, je vais devoir contribuer un peu moins au reste des dépenses. Donc, c'est une discussion qu'il faut avoir. Je sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord, mais enfin, encore une fois, s'il gagne plus, c'est souvent que sa femme travaille un petit peu moins parce qu'elle gère beaucoup de choses. Et donc, il n'y a pas de raison, après tout, qu'elle paye la moitié des impôts du ménage alors qu'elle gagne beaucoup moins.
Et dans le livre aussi, t'expliques que même pour un couple marié ou pas marié qui fait une déclaration commune, en fait, l'impôt, c'est quand même un truc que chacun doit payer, qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Alors maintenant, c'est plus possible avec le prélèvement à la source, mais qu'avant, il y en avait un qui pouvait payer la totalité des impôts, mais qu'aux yeux de la loi, il fallait que chacun ait payé sa part d'impôt.
C'était extrêmement dangereux, oui, de laisser l'un ou l'autre payer la totalité des impôts, parce qu'il y a des situations de divorce dans lesquelles certains réclament à leur femme ou à leur mari 30 ans d'impayé d'impôts. Donc, ça n'est pas considéré par la loi comme une charge du ménage.
Voilà, c'est ça l'expression.
Et donc, chacun est censé payer son impôt. Alors, effectivement, avec le prélèvement à la source, c'est beaucoup plus simple, puisque chacun paye soit la part qui correspond à ses revenus, soit en tout cas au moins une part significative des impôts. Mais il y a plein de revenus qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source, qui sont soumis à ce qu'on appelle des acomptes. Par exemple, si on a un studio qu'on met en location ou ouais. des choses comme ça, ces revenus-là ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Donc, ils continuent d'être payés sur un compte qui est soit un compte joint, soit le compte de l'un, soit le compte de l'autre, parce que l'administration fiscale ne s'amuse pas à prendre 50 d'un côté et 50 de l'autre. Donc, avoir un compte joint dédié à ces impôts-là, ça me paraît être une sécurité supplémentaire. Ou en tout cas, on peut utiliser aussi le compte joint pour le crédit immobilier, on peut l'utiliser aussi pour les impôts. On fait un compte joint finalement dédié aux très grosses dépenses et aux choses qui ont besoin d'être tracées.
Mais alors là, donc, c'est notre première année avec le prélèvement à la source pour les impôts. Et moi, j'ai été frappée, je sais plus quel est le chiffre exactement, mais là, au-delà de l'écrasante majorité des couples, n'a pas choisi à laisser le taux personnalisé, c'est-à-dire la même chose pour les deux, quoi.
Oui, pourquoi ? C'était plus de 90% qui ont opté pour le taux personnalisé, qui est le taux commun.
Je crois que c'est 96, enfin, c'est vraiment énorme. Et je me dis, mais alors, Donc ça veut dire que les femmes en France se sont fait avoir dans cette histoire depuis le 1er janvier. Elles se retrouvent, il y en a plein qui se retrouvent à payer plus d'impôts qu'avant. Enfin, ça dépend comment le couple fonctionnait.
Oui, il y a aussi des couples où les deux participaient au compte joint qui payaient les impôts. Et
pourquoi ils n'ont pas pris le tour individualisé?
Je pense que c'est surtout par méconnaissance et parce qu'on a affirmé pendant des mois et des mois et des mois que le prélèvement à la source, c'était l'usine à gaz. Les personnes, au moment de remplir leur déclaration d'impôt et de faire ce choix-là, elles ont déjà commencé par essayer de comprendre comment ça allait fonctionner, qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation à ce prélèvement à la source. Et on peut changer maintenant à tout moment.
D'accord.
Donc, c'est juste une petite case à cocher sur l'espace personnel qu'on a sur le site des impôts.
Quand on choisit le taux individualisé, on paye la même chose que si on faisait pas une déclaration commune, ou il y a quand même un intérêt à faire une déclaration commune en taux individualisé?
On paye quand même moins avec une déclaration commune.
D'accord.
Parce que dans tous les cas, on prend en considération les parts du foyer.
Donc celui qui devra payer le
enfants,
plus celui qui va être le plus imposé paye quand même moins que s'il avait été tout seul à faire sa déclaration, a priori.
Il me semble que oui.
D'accord.
Surtout dans les situations où il y a des enfants, d'ailleurs. Pour un couple sans enfants, je ne suis pas certaine de ça. J'avoue que j'ai pas fait le calcul. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'on choisit pas de faire une déclaration commune ou séparée, en fait. En union libre, on fait une déclaration séparée.
Ouais.
Sauf pour l'impôt sur la fortune, quand on y est soumis, où on fait une déclaration commune. Et quand on est pacsé ou marié, on fait une déclaration commune.
On est obligé.
On est obligé.
Même pacsé.
Oui. La première année, on a le choix. L'année où on se pacse, en fait, on peut faire deux déclarations séparées, même si on se pacse fin décembre. Mais les années suivantes, on est obligé de faire une déclaration commune.
Ça m'angoisse. Alors, pour résumer pour celles et ceux qu'on a perdus en route, si vous faites une déclaration d'impôt commune et qu'un des deux gagne plus d'argent que l'autre, allez sur le site des impôts pour choisir le prélèvement individualisé. Enfin, parlez-en avant avec votre partenaire, histoire de prévenir. Et puis parlez-en autour de vous. Demandez aux femmes si elles ont choisi le taux individualisé et expliquez-leur ce que c'est. Et rappelez-vous que l'État a décidé de bien nous mélanger le cerveau, puisqu'il y a le taux individualisé, chacun paye en fonction de son revenu, mais que le choix par défaut, c'est le taux personnalisé, le même taux pour les deux, et qu'on a trouvé ça malin d'appeler ça personnalisé alors qu'il ne l'est pas du tout. Ce qu'on veut, ce qui est bien, c'est le taux individualisé. Je retiendrai aussi des conseils de Héloïse que celle qui gagne le moins d'argent a intérêt à participer avant tout aux gros achats, comme la voiture, plutôt que de payer les courses. Même si elle n'a pas les moyens de rembourser tout le crédit pour la voiture, elle en paye une partie en conservant une preuve. Cela lui permettra de garder quelque chose en cas de séparation et de ne pas repartir avec un paquet de couches vides. Sur cette question des impôts, il y a un véritable enjeu à la fois féministe et de justice sociale. On devrait toutes être dans la rue avec des pancartes « Réforme de l'impôt pour un impôt féministe », parce que le système actuel est profondément injuste. Regardons de plus près comment ça fonctionne. En France, on pratique ce qu'on appelle la conjugalisation des impôts. C'est le fait que l'État oblige les couples mariés ou pacsés à faire une déclaration commune. Cette conjugalisation favorise les hommes, ou plutôt les plus gros revenus, donc en général les hommes. Avoir une femme qui gagne peu fait baisser leurs impôts. Alors que si l'impôt était individuel, cela n'aurait pas d'impact. Ils sont comme récompensés d'avoir une épouse qui gagne peu ou qui ne travaille pas à temps complet. Dans un rapport de l'INSEE publié en 2019, des chercheurs ont calculé qu'en 2017, cette conjugalisation avait coûté à l'État 11 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on calculait les impôts de chaque individu séparément, l'État gagnerait 11 milliards d'euros. Ou, ça c'est moi qui l'ajoute, on dégagerait 11 milliards d'euros que l'on pourrait redistribuer autrement. Par exemple pour aider les plus pauvres, qui sont majoritairement des femmes. Parce qu'en plus, ces 11 milliards, ils ne profitent pas avant tout aux ménages modestes. Il profite aux plus riches. Comme ce quotient conjugal n'est pas limité, plus vous êtes riche, plus vous bénéficiez d'une grosse baisse d'impôt si votre épouse gagne peu. Évidemment, si les deux membres du couple gagnent la même chose, ça ne joue pas. Et c'est même pire, cet effet de baisse pour les plus riches a augmenté depuis 2012 à la suite d'une série de réformes de l'impôt. Sans attendre une révolution fiscale, dans les réformes qu'on peut faire immédiatement, la première et toute simple serait de plafonner l'avantage fiscal du quotient conjugal, c'est-à-dire mettre une limite maximum pour que ça ne bénéficie pas à ce point aux plus gros revenus. Ensuite, il y aurait d'arrêter de rendre obligatoire la conjugalisation, c'est-à-dire de laisser le choix au couple pacsé ou marié de faire ou pas une déclaration commune. Et enfin, une autre réforme toute simple qui devrait être faite tout de suite, je l'ai trouvée chez Christiane Marty de la Fondation Copernic. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu sur cette histoire d'impôt prélevé à la source, pour lequel la majorité des couples ont gardé le taux personnalisé, qui fait que le revenu le plus petit est davantage imposé. Christiane Marty propose une chose toute simple. Inverser le principe, que le choix par défaut ce soit le taux individualisé et qu'il faille demander pour avoir le même taux pour les deux. Je la cite. Par défaut, le prélèvement doit être adapté aux revenus de chaque conjoint. L'administration le calcule facilement. Et c'est sur demande expresse du couple que le taux correspondant au revenu moyen des conjoints est appliqué à chacun. Et elle ajoute « Ceci étant, cela n'enlève rien au caractère injuste de l'imposition commune des couples. Il est notoire que le quotient conjugal défavorise les femmes, puisqu'il surtaxe les revenus les plus faibles, représente un frein à l'emploi des femmes et favorise les plus hauts revenus. » La sociologue Christine Delphi a beaucoup travaillé sur ces questions, notamment en les articulant avec les tâches ménagères. Considérant le travail ménager comme un travail non rémunéré, non seulement la plupart des épouses effectuent un travail gratuit, mais en plus, leur mari en tire un avantage fiscal. C'est comme si l'ensemble de la société payait pour décharger les hommes mariés. Mais si ces travaux sont désormais reconnus, si on reparle du travail domestique et de la charge mentale depuis quelques années, l'aspect économique a encore du mal à être pris en compte. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'une question de génération. Mais d'après Christine Delphi, c'est non.
Là, plus je travaille sur ce sujet, plus je me dis, ces questions financières, ces questions économiques, ma génération, on est un peu passé à côté.
Pas seulement la vôtre, hein. Je me souviens qu'une fois, j'avais parlé devant un groupe de féministes, et puis j'avais abordé la question, justement, de qu'est-ce qui se passe, là, bon. Et à un moment, une femme que je connaissais bien, j'étais quand même assez stupéfaite par le fait que, on parlait de l'inégalité des revenus entre hommes et femmes quand il s'agissait du salaire, mais s'agissant du reste, moi j'ai essayé de leur expliquer ce que j'explique aussi là-dedans. Enfin, je crois que j'explique un petit peu comment les femmes sont vraiment dépouillées par toute la société, quoi, avec un accord incroyable de tout le monde. Et à un moment, eh bien, cette femme me dit « Christine, tu nous ennuies ». Mais tout le monde était d'accord que oui, les salaires étaient inégaux. Mais toutes les autres façons dont les femmes sont exploitées, dont les bénéficiaires sont les hommes, même si c'est l'État, ben oui, c'est l'État, et ben oui. Quand vous avez un petit Macron qui dit « Ah ben oui, mais pendant ce temps-là, vous n'avez pas cotisé », qu'est-ce que c'est ça, hein? C'est de l'exploitation, bénie par les gouvernements, bénie par les États, de choses qui vont aux hommes, hein. Parce que ce que vous donnez pas aux uns, vous le donnez aux autres, forcément. Pour moi, c'est comme si on disait que les esclaves sont dans le don, ils sont pas dans le don. Je veux dire que, est-ce qu'on peut appeler ça un don? Voilà. Que ce soit de la part des femmes, par, entre guillemets, amour, ou de la part des esclaves. Non, c'est un dû. C'est un dû. Parce que c'est ça, la situation d'esclave. C'est, voilà, votre travail, il appartient à quelqu'un d'autre. Votre travail appartient à quelqu'un d'autre. Votre travail ne vous appartient pas. C'est pour ça aussi que les femmes ne se révoltent pas. C'est-à-dire que cette division du travail, le mari gagne de l'argent, et puis la femme, eh ben, même si elle gagne de l'argent de son côté, elle en gagne moins. Et puis même si elle fait 3 heures de travail ménager par jour en plus de son travail salarié, ben c'est pas du vrai travail, le travail ménager, hein?
Évidemment, elle est ironique quand elle dit que le travail ménager n'est pas du vrai travail. Alors, est-ce un don ou un dû? La question est intéressante et elle dépend sans doute du contexte. Si le conjoint d'une femme ne la remercie pas pour ce qu'elle fait, si elle a l'impression qu'il considère que c'est un dû, cela va tendre la situation. En tant qu'individu, elle veut que ce soit perçu comme un don. Mais à l'échelle de la société, on attend des femmes qu'elles fassent ce travail gratuit. Donc la société considère que c'est un dû sans que ça dérange grand monde. Quand Delphi dit que ce n'est pas un don, elle reprend les définitions des anthropologues. Dans la plupart des cultures, le don rend celui qui le reçoit redevable. On doit une contrepartie à l'autre. C'est le principe du don qui entraîne un contre-don. Ce n'est pas le cas ici. Et donc, si ce n'est pas un don, c'est un dû. Si on ne donne rien en échange de ce qu'on reçoit, c'est qu'on trouve normal de recevoir cette chose. Donc, quel est dû ? Certaines personnes pourraient être dérangées par le parallèle avec la situation des esclaves. Il n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre. C'est cette notion de dû qui fait la jonction avec la position d'esclave, dans un sens plus proche de la situation de la Rome antique que de la traite esclavagiste. C'était un angle important de la pensée féministe des années 70. Monique Wittig écrivait « L'hétérosexualité et le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisation des femmes ». Pour rendre compte de la spécificité de cette exploitation des femmes par les hommes, la sociologue Colette Guillaumin avait créé un mot sur le modèle de servage et esclavage, le sexage.
Ben, le refrain, c'est « Levons-nous femmes esclaves ». Mais le statut des femmes et des esclaves était le même sous la Rome antique, mais on a hérité beaucoup de ça. Et puis, ça ne venait pas que de ça. Les Grecs, c'était la même chose. Et les Romains ont imité les Grecs. Et puis, c'était probablement la même chose partout, dans tout le Moyen-Orient, etc., et le monde méditerranéen.
Il est vraiment temps que les militantes féministes s'emparent de ces sujets. Mais c'est le genre de demande que le mouvement a du mal à mettre en avant. Peut-être à cause d'une méconnaissance de ces questions, par manque de formation économique. Pourtant, la lutte doit également porter sur ces questions financières très précises. Pour en revenir à fric et féminisme, il y a un autre souci. C'est que l'argent, c'est de droite. Et les féministes sont souvent de gauche. J'ai posé la question à Ariel Bont, qui rédigeait la newsletter 5 novembre, 16h47, dédiée à l'économie et au monde de l'entreprise.
Moi, en fait, quand je pense aux questions féministes et l'argent, je pense tout de suite aux États-Unis, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui ont été mises en place ces dernières années. Et je pense que c'est dû à la culture des États-Unis, l'American Way of Life, l'American Dream, c'est très basé sur l'argent finalement et la réussite financière. Donc, je pense que les féministes américaines doivent avoir ça aussi ancré en elles, ce qui ne signifie pas d'ailleurs que les inégalités salariales n'existent pas aux États-Unis, bien au contraire. Mais je pense qu'en France, bah déjà, on a tellement de choses à faire que par où commencer. Et puis l'argent, c'est très tabou en France, quoi. On n'a pas du tout cet état d'esprit de parler librement de notre salaire, de combien on gagne, de combien on a négocié. C'est vraiment des conversations qu'on n'a pas. Et je dirais aussi que c'est culturel. Et puis c'est dans l'éducation. On a vraiment quelque chose d'ancré depuis qu'on est... petite, je dis petite parce que je pense surtout aux femmes, mais la façon dont on aborde l'argent quand on est petite, finalement, c'est plutôt dans les questions de dépenses. Même il y a plusieurs études qui ont été montrées par rapport à ça, ouais, c'est les questions de dépenses et pas finalement de gagner du patrimoine et de gagner son argent, etc. Quoi.
Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'en plus, tu vois, je regardais, donc il y a des sites là, j'ai l'impression que c'est la multiplication des sites très féminins, vraiment de femmes qui parlent à d'autres femmes, mais sur comment gérer son argent en temps de coronavirus, est-ce qu'il faut épargner, est-ce qu'il faut boursicoter, enfin, et des trucs très concrets et très avec, tu sais, la photo du café macchiato un peu chic et tout, mais pour te parler de thunes. Et ça n'existe pas en France, on est d'accord, on n'a pas de site comme ça qui... Les sites financiers s'adressent plutôt aux hommes en France.
Quand on parle d'argent aux femmes, vraiment, on va leur parler, en tout cas en France, de comment gagner de l'argent, mais par rapport à ses dépenses, donc comment faire bien les soldes, comment avoir les meilleurs tips, etc. Et c'est vrai qu'il y a très peu, voilà, pas du tout, même mis à part, j'ai envie de dire, c'est pas pour faire la pub des Glorieuses, mais mis à part les Glorieuses qui essaient de déconstruire, etc., qui est moins dans le pratique finalement que effectivement ce qu'on peut voir aux États-Unis. Pourquoi il n'y a pas ça après, moi, je sais pas, peut-être que c'est encore justement cette histoire de culture où l'argent est très tabou, en parler est très tabou. Il y a une notion aussi de « on va se vanter de aligner les zéros qu'on cumule ou pas ».
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là, tu vois, alors bon, en partant de mon cas, mais je vois un peu les copines autour, on a un tel manque de culture économique. Là, par exemple, j'ai un peu travaillé sur l'impôt et l'impôt sur les couples, etc., pour l'impôt sur le revenu. Et je me suis rendu compte que ça devrait être une revendication féministe à l'heure actuelle. Ça devrait être un truc qu'on porterait en disant, bah voilà, on veut une réforme de l'impôt, une réforme féministe de l'impôt.
Mais en vrai, on maîtrise, on connaît tellement pas ces sujets.
Ils sont pas effectivement sur le top de notre liste de combats féministes où c'est plus facile, enfin plus facile, je mets des gros guillemets, hein, mais de défendre, on va dire, les violences faites aux femmes, le sexisme ordinaire. Après, il y a quand même, je trouve, une discussion sur les inégalités salariales depuis quelques années, qui est déjà le premier pas, effectivement, dans les questions économiques.
Ouais, et puis ça permet de faire une éducation financière qu'on nous donne pas. En plus, tu vois, à l'école, c'est complètement absent. On peut faire toute sa scolarité sans avoir aucune notion de finance ou d'économie.
Et surtout, j'avais fait justement un numéro sur, alors pas sur l'école, mais en tout cas sur la perception de l'argent des enfants. Parce que, en fait, de la même manière que les questions de genre et les stéréotypes s'ancrent très rapidement chez les jeunes enfants, c'est la même chose pour l'argent. Donc, c'est en fait essentiel, après, à voir comment c'est fait. Pour moi, en tout cas, de donner des cours d'économie ou en tout cas de gestion financière, d'épargne, de budget à des enfants. Parce que très jeunes, en fait, ils perçoivent très vite des stéréotypes, les inégalités. Il y avait des études qui montraient que les petites filles touchaient moins d'argent de poche que les garçons. Et qu'après, elles touchaient moins d'argent que les garçons, mais les parents leur donnaient peut-être le complément, on va dire, pour qu'elles puissent dépenser en vêtements, en maquillage. Donc voilà, vraiment, on est vraiment, en tout cas, dans un truc très de la dépense chez les petites filles et chez les femmes. Alors que les hommes vont plutôt être dans l'accumulation du patrimoine ou en tout cas de gérer leur argent un peu comme ils veulent.
C'est vrai qu'on est très sur la dépense. Alors en plus avec toutes les injonctions sur les soins du corps, sur les fringues, sur la coiffure, etc. qui engendrent des dépenses en permanence.
Ah bah c'est exactement ça, ouais.
Et toi, t'aurais des conseils à donner aux femmes? Est-ce que toi, t'as changé des trucs, tu vois, en travaillant sur le sujet, dans ta manière de gérer l'argent, dans ton rapport à l'argent, tout ça?
Alors déjà, dans les conseils, je dirais, le premier, c'est vraiment briser le tabou de l'argent. Vraiment en parler, s'informer. C'est pas forcément acheter 12 livres pour se faire sa bibliographie, mais vraiment lire, si on lit l'anglais en tout cas, bah justement d'aller lire ces sites qui sont quand même très bien faits, je trouve, aux États-Unis. De se questionner sur tout ça. Et moi, effectivement, depuis que j'écris sur l'argent, alors je dis pas que j'ai révolutionné mon rapport à l'argent et que je gagne trois fois plus aujourd'hui qu'il y a un an, mais en tout cas, je trouve que j'aborde le sujet beaucoup plus facilement. Même dans mon couple, justement, on est dans des réflexions aussi d'achat, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment des sujets dont on parle et qu'on a amené sur le sujet, bah, parce qu'en fait, j'avais été informée là-dessus. Sinon, on l'aurait pas fait, je pense. Je pense qu'il me paraît important, c'est que c'est hyper bien de se renseigner, d'apprendre à négocier, apprendre à budgéter, etc. Mais à un moment donné aussi, la responsabilité, elle n'est pas que du côté des femmes. Elle est aussi du côté des entreprises qui les payent mal, du côté du gouvernement, comme tu l'as justement dit, ces histoires d'impôts, etc. Finalement, il y a des choses assez sexistes dans les façons de faire quand on voit les histoires de pensions alimentaires, etc. Ça, c'est un autre sujet, hein, mais...
Il y a aussi tout un système à déconstruire derrière, quoi.
Ouais, exactement. Et il ne faut pas non plus, en tant que femme, se flageller en se disant « Oh là là, je gagne moins que mon mec ». C'est aussi quelque chose de beaucoup plus structurel et systémique qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que ce n'est pas une petite révolution qu'on va faire chez soi dans son foyer, même si c'est déjà bien de commencer par soi. Mais il y a aussi quelque chose d'au-dessus, de beaucoup plus important. Et c'est aussi aux entreprises et au gouvernement de mettre en place des politiques publiques ou de payer les femmes autant que les hommes, tout simplement. C'est quand même interdit par la loi depuis 1972. Donc, il y a aussi ça, je pense, qui est important de rappeler. Mais oui, enfin, vraiment déjà briser le tabou. Et puis, je pense, utiliser son argent de façon consciente et réfléchie. Donc, on est quand même la première puissance économique mondiale, finalement, puisqu'on est 52% de la population à être des femmes. Et pourtant, on continue de mettre notre argent dans des entreprises qui nous asservissent et qui perpétuent des stéréotypes et des clichés. Donc aussi, penser où est-ce qu'on investit son argent, ça passe par les courses du quotidien finalement. Et puis si on a un peu plus d'argent, il y a des collectifs comme je pense à Sista, un collectif d'investisseuses qui elles réfléchissent effectivement à, parce qu'elles ont les moyens aussi de se le permettre, hein, elles sont très privilégiées finalement, mais qui réfléchissent à comment mieux financer les femmes et faire évoluer tout ça dans le bon sens du terme.
Ça, c'est aussi, je m'étais rendu compte de ça, c'est l'année dernière, j'avais commencé à regarder un peu les banques solidaires et tout, et je m'étais rendu compte de mon ignorance totale qui était de l'ordre de « mon banquier m'a fait ouvrir, je ne sais pas, un livret développement durable, que sais-je, blablabla », et en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et quand j'ai commencé à regarder, mais à quelles entreprises ça profite, je fais, ah ouais, non, ça ne va pas du tout avec mes idées politiques. Mais donc, il y a des fois, c'est juste, on ne regarde pas, on ne se rend pas compte qu'on est en train de financer un truc, voilà, que si on le faisait de manière consciente, on se dirait, bah non, je signe pas pour ça, quoi. Donc, t'as raison, effectivement, il faut regarder tout ça.
Oui, totalement. Ben, en fait, surtout, il faut se poser des questions. Alors, au début, c'est peut-être un peu fatigant, mais après, finalement, on prend vite le rythme de se dire, bah, qui est derrière cette entreprise? Est-ce qu'elle fait du, derrière ses beaux slogans? Est-ce que, finalement, elle applique ce qu'elle dit? Parce qu'il y a beaucoup de féministes washing aussi, donc, faut faire attention à ça. Et, c'est un peu, faut enquêter tout le temps. Ouais, c'est un peu fatigant au début, mais finalement, on prend vite le pli. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez plaisant, finalement, à se dire, OK, ben, en fait, mon argent, je sais, où il va, à quoi il contribue. Alors, c'est pas toujours parfait. Il faut faire avec ce qu'on peut faire, les moyens du bord, le taux de connaissance qu'on peut avoir aussi. Mais il y a ce côté, ouais, prendre en main aussi nos finances, c'est prendre en main dans quoi on, vers quoi on les met, quoi.
En réalité, il y a une vraie cohérence. M'intéresser au sujet des finances de mon couple, réfléchir à comment faire autrement, m'amène forcément à découvrir de nouvelles revendications féministes. Je vais préparer ma pancarte pour un impôt féministe. Mais si je m'intéresse à tout ça maintenant, c'est sans doute aussi parce que je suis à l'âge où les couples se séparent. Enfin, disons à l'âge où les séparations ont de vraies conséquences financières. Dans le prochain épisode de Rends l'argent, on parlera rupture et thunes. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.